Voici le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, Otoniel, c'est le surnom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose. C'est surtout celui du nouveau Pablo Escobar, ce narcotrafiquant le plus puissant de Colombie. Il a été arrêté au nord du pays, en pleine jungle. On y revient après les autres titres, Christelle.
Les tests Covid, ils sont payants depuis le 15 octobre, boudés par les Français, mais très prisés en France par nos voisins suisses. Vous entendrez pourquoi. Il y a 5 ans tout juste, la jungle de Calais était démantelé. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Des milliers de migrants cherchent à traverser la Manche en bateau. Le petit Nicolas a 60 ans, mais il aura 10 ans pour toujours. L'écolier de Sampé, Goscinny, revient au cinéma dans le trésor du petit Nicolas, toujours joyeux et bacareur. OM-PSG, chouette, dirait le petit Nicolas, mais Dimitri Payet n'a pas du tout envie de rigoler. Il appelle les supporters de Marseille à l'exemplarité. On y reviendra dans le journal des sports de Marine Clet.
Et puis à 8h20, on va parler ce matin de conventions citoyennes et de démocratie à 6 mois d'élection présidentielle. On va en parler avec Thierry Pêche, le directeur du think tank Terra Nova.
France Inter. Il était en quelque sorte le successeur de Pablo Escobar. Le plus grand des narcotrafiquants a été arrêté en Colombie. Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, était à la tête du tout-puissant clan del Golfo, formé d'anciens membres de groupes paramilitaires. Le trafic de cocaïne lui avait permis de prendre la tête d'un cartel présent dans 300 villes du pays. Il a été arrêté dans la jungle, à Bogota, Marie-Ève de Teuf.
Sur les premières images diffusées, Otoniel, en t-shirt, apparaît tranquille, presque souriant, avant de monter dans l'hélicoptère militaire direction Bogota. L'homme ne dormait jamais deux nuits de suite au même endroit, a dit l'armée, mais il a été capturé dans la région de l'Uraba, son fief depuis toujours. Fils de paysan, Otoniel a démarré sa carrière à l'âge de 16 ans dans la guérilla, avant d'intégrer les milices paramilitaires d'extrême droite. Quand ces milices se démobilisent en 2006, Otoniel garde les armes et prend le contrôle du trafic de drogue. Il reconstitue un empire. Le clan du Golfe compte aujourd'hui quelque 3000 hommes armés. Le président Iván Duque a présenté la capture d'Otoniel comme le plus gros coup porté au narcotrafic depuis la mort du très célèbre Pablo Escobar. C'est peut-être vrai, mais aucune capture ne va mettre fin au trafic de drogue. Déjà, la question se pose de savoir qui va remplacer Otoniel à la tête du clan du Golfe. Bogota, Marie-Ève de Teuf, France Inter.
L'épidémie de Covid sous surveillance, près de 6300 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. C'est une hausse depuis une semaine.
La baisse des températures, la moindre efficacité des vaccins au bout de 6 mois, ils sont sans doute pour quelque chose, d'après l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Mais ce matin, dans le journal du dimanche, ce dernier se veut rassurant. La France, dit-il, devrait échapper à une tension hospitalière. Les tests, eux, sont payants depuis le 15 octobre. Il y en a donc de moins en moins, sauf du côté de la frontière avec la Suisse, car ils sont beaucoup moins chers que chez nos voisins. Reportage à Annemasse, Jérémy Lanche.
J'avais pris rendez-vous en Suisse et j'ai toujours fait en Suisse. C'est une amie qui est française qui m'a dit « Mais chez nous, les tests, ils sont 40 euros. Pourquoi tu vas pas en France ?»
Samantha est déjà vaccinée, mais pour prendre l'avion avec sa famille, elle doit présenter un test négatif avant d'embarquer. À 134 francs suisses, le test PCR, à peu près 125 euros, le calcul était vite fait.
Pour une famille de 4 personnes, ça représente 400 francs d'économie. C'est pas négligeable de faire la queue et puis de venir ici, ça c'est clair.
Dans la file ce matin, longue de plusieurs dizaines de mètres, les Suisses seraient surreprésentés, assure Leïla, une infirmière venue en renfort.
Je dirais 70%, parce qu'en Suisse, je crois que c'est dans les 100, 120 euros, et nous on est à 22 euros, donc oui, on en a beaucoup.
Le problème, c'est que cet engouement des Suisses pour les laboratoires et les pharmacies de la France voisine engorge un peu plus les services de santé.
Ça fait des mois, maintenant on va compter en termes d'années, qu'on a du monde, vous voyez la queue ce matin, et du coup, si ça fait une grande surcharge de travail, on est toutes fatiguées, et c'est comme ça.
Face à la cherté des tests Covid en Suisse, plusieurs entreprises proposent maintenant des tests low cost, avec des formules d'abonnement mensuelles, comme pour la salle de sport. À Annemasse, à la frontière franco-suisse, Jérémy Lanche, France Inter.
La Guyane, elle, est toujours sous couvre-feu à cause du Covid. Le contexte social est complexe là-bas entre grève et blocage de dépôts de carburant. Et c'est le territoire qu'a choisi Jean-Luc Mélenchon pour faire campagne. Une visite de 6 jours, là où il était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en 2017. Et il aimerait bien réitérer l'exploit, Marie Monnier.
Dès sa sortie de l'avion mercredi dernier, devant une poignée de militants, Jean-Luc Mélenchon a donné le ton.
Que ce soit en Guyane, que ce soit à La Réunion.
Pour cette troisième campagne présidentielle, il veut miser sur les territoires d'outre-mer.
Ce sont des territoires et des populations qui mérite qu'on partage souffrance et nécessité.
Arrivé dans un contexte social très tendu,
je mesure un état d'exaspération.
Le candidat de la France insoumise a rencontré les représentants de la mobilisation anti-pass sanitaire.
Le territoire, le pays Guyane, court tout droit vers un crash social, économique et sanitaire.
Alors le candidat tente de soutenir et apaiser.
Tordre le bras des gens pour leur faire faire les choses ne sert à rien. Il faut parler.
Mais les problématiques sont nombreuses en Guyane. Inégalité sociale.
Mais nous sommes dans un pays riche et la population est pauvre.
Sentiment de défiance et d'abandon.
Les futurs candidats, ça fait des années que ça défile.
Dans la salle, Franck ne sait pas sur quel candidat à l'élection présidentielle il pourra compter.
Est-ce qu'ils ont la volonté ? Ce que j'espère, c'est qu'il soit sincère.
Si vous êtes élu président...
Autre temps fort de sa visite, cette rencontre avec des lycéens de l'Ouest guyanais.
En Guyane, il y a 15 000 enfants qui ne sont pas scolarisés. C'est un scandale et une honte.
En Guyane, le candidat de la France insoumise veut aussi faire de la jeunesse et de l'accès à l'éducation une priorité. Cayenne, Marie Monnier, France Inter.
Pendant ce temps à Lille, Anne Hidalgo lançait ce qu'elle appelle son projet de reconquête sociale, écologique, démocratique du pays. Dans le programme de la candidate socialiste, une assurance chômage universelle, un impôt sur la fortune climatique ou encore le droit de vote à 16 ans. Un véritable plan de relance électorale.
C'était il y a 5 ans, la jungle de Calais était démantelée. Et bien c'est l'occasion ce matin de faire le point sur la situation des migrants dans ce secteur.
Oui, les migrants qui veulent à tout prix gagner l'Angleterre sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée sur de petites embarcations. Ils étaient 2000 à y être parvenus en 2019, 18 000 depuis le début de cette année. Mais revenons en arrière. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour.
Il y a 5 ans, 7 000 personnes étaient emmenées dans des bus vers des centres d'orientation. Et vous vous souvenez de ce moment avec vos collègues du service reportage ?
Oui, en 2016, la jungle est devenue un bidonville et c'est frappant à chaque fois qu'on y passe. Il y a de nouvelles structures, boutiques, églises, mosquées ou cabanons. Il y a aussi des pics de tension régulièrement à cause de l'insalubrité, de la promiscuité et parce qu'il y a moins de passages vers l'Angleterre. Des grilles de plus en plus sophistiquées sont installées pour protéger Eurotunnel et le port. Certains migrants tentent d'arrêter les camions sur la rocade. Une tension perceptible dans cet extrait de reportage tourné une semaine avant le démantèlement avec Gilles Gallet. Des pierres contre du gaz lacrymogène. Par petits groupes, des jeunes traversent le No Man's Land et jettent ce qu'ils trouvent sur les CRS. Nous sommes dans la bande des 100 mètres.
C'est un vrai champ de bataille.
Un terrain défriché, aplani, pour dégager la vue au pied de la rocade.
J'essaie de retrouver les trois gamins qui vivent. Ils traînent toujours avec nous, je voudrais juste les mettre à l'abri. Mortasar !
Marianne fait partie des juristes bénévoles présents depuis un mois.
C'est le pire camp de réfugiés qui existe. Les gens vivent par terre, c'est indigne.
Et dans la suite du reportage, on entend des migrants appeler au calme. Et c'est aussi ce qui marque ce jour du démantèlement où 7000 personnes sont évacuées sans heurts dans des centres. On leur propose alors notamment de déposer une demande d'asile en France.
Mais Mathilde, beaucoup veulent encore traverser la Manche coûte que coûte.
Aujourd'hui, il serait ainsi 1500 dans la zone de Calais, dans des conditions bien plus précaires qu'il y a 5 ans, selon les associations, qui dénoncent des évacuations tous les 2-3 jours, avec à chaque fois tentes et duvets confisqués. Les passeurs, eux, se sont diversifiés. Les passages se font par petits bateaux, plus que par ferry ou train maintenant, et c'est sur un plus vaste territoire, rendant les contrôles difficiles. Il y a tout de même des arrestations, comme la semaine dernière, où un réseau vietnamien a été démantelé.
Mathilde Dehimy, 2 TGV Atlantique sur 3 circulent aujourd'hui. La grève des conducteurs devrait se poursuivre le week-end prochain, sauf accord avec la direction sur les conditions de travail et les rémunérations. Un espoir pour toutes celles et tous ceux dont la vie est suspendue à une greffe de rein. Nous vous en parlions dans la semaine. Des équipes de scientifiques de New York ont réussi, et c'est une première mondiale, à faire fonctionner le rein d'un cochon génétiquement modifié sur un humain, ce qui n'avait jusqu'ici été réalisé que sur des singes. C'est une avancée considérable, même si la route est encore longue, Hélène Chevalier.
L'opération n'a pas été réalisée sur un patient en attente d'organes, mais un homme en mort cérébrale. L'intérêt était dans un premier temps de démontrer que le rein fonctionnait, explique le professeur Blanchot, chef du service de néphrologie du CHU de Nantes.
Ici, la manip est une manip dite ex vivo, c'est-à-dire en dehors du vivant de l'individu, mais parfaitement perfusé par le sang de l'individu, qui a duré 54 heures. L'intérêt de la manip, c'est que l'organe n'a pas été rejeté, mais en plus, il a été fonctionnel, c'est-à-dire qu'il a fait de la fonction rénale avec de la génération d'urine.
Et si la greffe n'a pas été rejetée, c'est que le porc était génétiquement modifié pour qu'il ne provoque pas la production d'anticorps chez l'homme. Une première qui a duré moins de 3 jours. L'expérience est donc limitée, reconnaît l'équipe. Rien ne prouve en effet qu'il n'aurait pas été rejeté plus tard.
Ces porcs génétiquement modifiés sont relativement bien protégés sur les phases précoces, mais beaucoup moins sur les phases tardives, parce que avec le temps, l'humain ou les primates, dans ce qui a été fait jusqu'à présent, s'immunisent, reconnaissent quand même des molécules d'origine porcine autres et développent de nouvelles défenses immunitaires contre l'organe porcin et donc potentiellement génèrent du rejet.
Au-delà des obstacles médicaux, il faudra aussi une acceptation sociétale de ces nouvelles pratiques.
Hélène Chevalier, il est espiègle, un peu bagarreur et il dit tout le temps « chouette ». Est-ce que vous le reconnaissez, Eric?
Ah, c'est chouette, vous parlez de moi?
Non. C'est pas faux. Ça pourrait, mais non, c'est pas en l'occurrence.
Le petit Nicolas.
Bravo. L'écolier de Goscinny et Sempé, le plus célèbre des 30 glorieuses, s'est bien adapté au 21e siècle. Le trésor du petit Nicolas vient de sortir au cinéma, signé Julien Rapneau, avec toujours une belle distribution, Alexis de Meyer.
Le monde du petit Nicolas s'effondre. Il doit dire au revoir à Alceste, Rufus, Agnan, Geoffroy, Clotaire et tous ses autres copains.
Il a eu une promotion.
Ça va nous demander un peu d'organisation.
Un peu d'organisation ?
Oui, le déménagement.
Quel déménagement ?
La famille part s'installer à Aubagne, c'est-à-dire au bout du monde, dans l'esprit de notre jeune héros. Alors, toute la bande d'écoliers part à la recherche d'un trésor médiéval.
On va organiser une expédition. Faut qu'on s'équipe d'ici dimanche.
Des pièces d'or qui permettraient au père du petit Nicolas de refuser sa mutation dans le sud. Le papa, c'est Jean-Paul Rouve qui remplace Cadmérade, tandis qu'Audrey Lamy prend la suite de Valérie Lemercier dans le rôle de la maman qui proteste contre la charge mentale. Pierre Arditi et Jean-Pierre Daroussin sont aussi à l'affiche, tout comme François Morel, très bon en voisin taquin et intrusif. Dommage, la mise en scène manque de relief et on regrette de ne pas retrouver ici la poésie et la finesse des dessins de Sempé. L'humour de Goscinny, en revanche, fait toujours mouche.
Clotaire, le surnom de Louis XIV.
Loulou. Loulou 14 peut-être.
Malgré ses faiblesses, le film de Julien Rapneau tient la longueur grâce à son rythme enlevé et à ses clins d'œil au cinéma d'aventure pour enfants des Goonies à la guerre des boutons en passant par Moonrise Kingdom.
Le petit Nicolas qui par ailleurs adore jouer au foot avec ses copains.
Vous avez des foot ? Voici le journal des sports, 8h12.
Bonjour Marine Clet.
Bonjour Christelle.
Et ben en football justement, c'est le classico aujourd'hui entre Paris et Marseille.
Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l'OM ce soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre à guichet fermé évidemment, mais les 42 000 Marseillais du Vélodrome ne doivent pas faire de vagues. Au moindre débordement, c'est un point en moins au classement pour l'OM, l'attaquant marseillais. Dimitri Payet a appelé les supporters à être exemplaires dans une vidéo sur Twitter. Alors même avec tout un stade contre lui, Paris compte bien poursuivre sa série d'invincibilité. Ça fait 10 ans qu'il sort vainqueur du Classico, Julien Froment.
Un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est ce qu'a répété à l'envi l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, hier en conférence de presse. Il faut dire que Paris est comme chez lui à Marseille, 10 ans d'invincibilité. Le milieu de terrain Ander Herrera est conscient qu'il faut maintenir cette hégémonie.
On sait que c'est un match spécial pour les supporters, donc on est prêt. On sait que va être très difficile parce qu'ils sont dans un bon moment. On sait que c'est pas seulement 3 points.
Ce sera aussi le premier OM-PSG pour un certain Lionel Messi, le sextuple ballon d'or. On a vu d'autres, c'est un habitué des grands rendez-vous. Au Barça, il avait pris un malin plaisir à martyriser le grand rival, le Real Madrid. Les supporters parisiens comptent bien évidemment sur le génial argentin.
Qui continue de prouver ce qu'il nous a prouvé là et qui marque. Et puis voilà, montrer qu'il est bien parisien et qu'il va nous faire vibrer contre Marseille.
Je pense qu'un match comme ça, ça va être du gâteau pour lui.
Et Paris ce soir sera au grand complet. Il pourrait même aligner ses 4 fantastiques, Messi, Di Maria, Neymar, Mbappé, un quatuor qui ne sera pas de trop pour éteindre une fois de plus le volcan olympien.
OM-PSG, c'est ce soir à 20h45.
Le volcan olympien, rien.
Exactement. La demi-mesure. Du reste, match nul hier entre Lille et Brest, mais victoire de Nantes sur Clermont. En rugby, le Stade toulousain a écrasé Castres 41-0. Toulouse reprend la tête du top 14.
Et puis ce dimanche pourrait devenir aussi un jour historique pour le sport tricolore, avec peut-être un premier titre mondial en moto pour un Français cet après-midi.
Fabio Quartararo, oui. Retenez bien son nom, c'est l'homme qui pourrait bien devenir le premier Français à remporter le titre de champion du monde de MotoGP. Cet après-midi, c'est le Grand Prix d'Émile-Romagne en Italie et le jeune Français compte 52 points d'avance au classement. Autrement dit, si jamais il remporte la course, sur le mythique circuit de Misano, il est champion. Et Guillaume Batin a seulement 22 ans, il a déjà le plus gros palmarès de tricolore de la discipline.
Poussé par son père, Étienne, champion de France en 1983, Fabio Quartararo enfourche une moto à l'âge de 4 ans. 10 ans plus tard, il est double champion d'Espagne, le plus jeune de l'histoire. Un pays que le père et le fils sillonnent à bord d'un camping-car. Il gravit les échelons à la vitesse de l'éclair. Moto 3, premier podium, il a 16 ans. Moto 2, première victoire à 18 ans. Et l'arrivée en MotoGP à seulement 20 ans. Fabio Quartararo tape dans l'œil des meilleurs. La légende Valentino Rossi, l'Italien, le considère comme son digne héritier. C'est d'ailleurs chez Yamaha que Fabio prend le guidon de la moto numéro 1 jusque-là pilotée par Valentino. 18 pole position, 24 podiums, 9 victoires en Grand Prix. Quand Christian Sarron, dans les années 80, Olivier Jacques dans les années 90 ou Randy Depugnet et Mike Di Meglio dans les années 2000 et 2010 ne totalisent à eux quatre qu'une seule victoire en Grand Prix, celle de Sarron en 1984 en Allemagne.
Fabio Quartararo s'élance cet après-midi à 14h et puis si jamais il décide de faire un peu durer le suspense, il reste encore deux Grands Prix avant la fin de la saison.
Merci Marine.
Marine Clette dans le journal de Christelle Rebière. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Avec du frais ce matin pour commencer, et puis il y aura du soleil, Jean-Michel Golinski.
En dehors des zones littorales, les températures de début de la journée sont fraîches, vers 0 moins 2 degrés sur un axe sud-ouest-nord-est, contre 10 à 14 sur l'arc méditerranéen et la façade atlantique, et 18 degrés relevés du côté de Bastia et de Figari. Aujourd'hui, une fois les brouillards dissipés, le soleil va faire la une sur la plupart des régions, sauf sur le Languedoc et le Roussillon, où des entrées maritimes seront tenaces, notamment ce matin. Et puis, du côté de la pointe ouest, où l'arrivée d'une zone de pluie va donner un ciel maussade sur le Finistère, s'étirant progressivement en journée jusqu'au Pays de la Loire et la Basse Normandie. Cet après-midi, c'est dans le quart sud-est qu'il va faire le plus doux, avec 23 à Marseille et Ajaccio, 22 à Nice. Il est prévu 20 degrés en moyenne au sud de la Garonne, 18 dans le Golfe du Lion et du centre au Poitou-Charentes, 15 à 16 entre Brest, Nantes et Caen, et 12 à 14 du nord de la Seine au quart nord-est.
Jean-Michel Golinski, Météo France.